D'accord, merci. Bonjour à tous et à toutes. Merci à Gisèle Apter de cette invitation, à l'information psychiatrique, à tous ceux que je méconnais et qui participent à cette grande œuvre de maintenir ce congrès annuellement en renouvelant les thèmes d'inspiration, d'aspiration. Et celui-ci est particulièrement intéressant de mon point de vue pour tout un tas de raisons. Avant de commencer, ça tombe relativement bien que je vienne maintenant parce que le débat qui a commencé tout à l'heure, là, sur les deux questions centrales, les trois questions même. La première, est-ce que c'est un mal contemporain? Est-ce que les névroses plus ou moins sublimées ou les névroses plus ou moins perverties ont disparu au profit des alexithymiques, des faux selfs, des répresseurs d'émotions? La question est oui. Mais ça, c'est comme la question que se posait Alice dans Alice au Pays des Merveilles, au chat du Cheshire. C'est tout dépend qui décide de nommer quelque chose comme ça ou autrement. Je ne crois pas qu'il y a eu de transformation, de mutation génétique particulière ou de transsubstantation psychopathologique particulière. Non, il n'y a pas eu de grands changements. Il y a eu des évolutions sociétales, mais pas de grands changements. C'est les mêmes psychopathologies, mais c'est vrai qu'on ne les nomme pas de la même manière. Moi, je regrette les névrotico-pervers, hein, parce que dans le rayon des magasins des névrotico-pervers, vous aviez au moins le choix, quoi. Il y avait tout ce qu'il faut, obsessionnel, hystérique, phobique. Ça se mélangeait, tandis que chez les alexithymiques, vous n'avez pas vraiment le choix. C'est toujours le même modèle de répression, de contre-investissement. Bon, on va en discuter. Alors ensuite, que les neurosciences négligent la question du corps, alors ça m'épate. Non, les neurosciences cognitives, Dieu merci, ont évolué. Et elles ont évolué en sortant du tout cognitif et en allant vers, par exemple, l'interoception. C'est des travaux qu'on mène dans mon service avec Marion Robin, c'est-à-dire la perception sensorielle du corps, y compris viscérale. L'interoception fait la part belle au fait que c'est à partir du corps que ces sensations vont émerger et qu'elles vont monter plus ou moins à se transformer en affect, en émotion, en sentiment, en pensée, en symbole. Ça va même plus loin puisque d'autres étudiants chez moi étudient quelque chose de fondamental, c'est qu'une émotion toute seule, ça n'existe pas. Un homme tout seul, ça n'existe pas. Un bébé tout seul, ça n'existe pas. Donc une émotion toute seule, ça n'existe pas. Une émotion, c'est une co-création avec quelqu'un. L'amour à l'adolescence, la mère dans l'enfance et avec qui vous voulez, entre les deux. C'est une co-création avec quelqu'un. Et cette co-création, elle est psychique, elle est sensuelle et elle est aussi physiologique. Il y a une interphysiologie. C'est le bébé qui fait sécréter l'ocytocine de la mère au moment de l'allaitement et qui favorise la pulsion d'attachement. Je ne sais pas ce qui se passe dans la relation amoureuse, mais c'est parce que c'est lui, parce que c'est moi, parce qu'on va se faire des choses et que ça reste entre nous et que c'est une question de peau, de chair, de rythme et de sensorialité. Pour ce qui est de la psychanalyse, alors la psychanalyse ne s'occupe pas des émotions. Alors ça, non, c'est pas possible. La psychanalyse lacanienne, oui. Et oui, Lacan, sur la fin, s'est aperçu qu'il manquait quelque chose. Mais enfin, moi qui ai été élevé par André Green, moi qui ai été élevé par Didier Anzieux, par Pierre Fédida, dire que la psychanalyse ne s'occupe pas des émotions, non. La psychanalyse met au centre de la relation transférentielle, de la rencontre avec le patient, de l'intersubjectivité. Elle met au centre, elle, ce qu'elle appelle l'affect, qui n'est pas l'émotion, mais qui, vous allez le voir, est la partie, vous allez le voir, je vais vous le proposer de le voir, ensuite on discutera, l'affect est la partie immergée de ce que l'émotion est la partie émergée. Ça, c'est une définition de Pierre Aulagnier. Ce qui alimente l'émotion qui est exprimée dans le langage infraverbal ou dans le langage verbal émane de quelque chose qu'on appelle l'affect, qui est directement lié au corps, qui a un ancrage au corps. Et c'est à partir de cet affect qui est la partie la plus large, la plus grande, la plus étendue, mais invisible et plus ou moins inconsciente, que naît la partie consciente qu'on peut appeler émotion. Donc, je récuse l'idée que la psychanalyse, il y a les psychanalyses, la psychanalyse lacanienne a investi le logos, c'est très bien, Mais le logos vient bien plus tard pour ce qui concerne la question qui nous préoccupe, celle des émotions. Je n'ai pas assisté à la conférence précédente, et c'est dommage parce que Albert Camus, l'étranger, est évidemment un paradigme central. Mais avant de dire du mal de mes amis lacaniens, je vais dire du bien, puisque, je ne sais pas si ça a été dit, mais le premier titre de l'étranger, ce n'est pas l'étranger, c'est « La mort heureuse ». Et Meursault, dans « La mort heureuse », ne s'appelle pas Meursault, il a perdu son « U », il s'appelle Meursault. D'accord ? Pour les lacaniens, c'est du pain béni. La mer, c'est-à-dire le soleil, le soleil plein d'ombre, n'oubliez pas que le soleil chez Camus est plein d'ombre et qu'il aspire à une nuit étoilée sans soleil. Cette mer, dont vous savez qu'elle était sourde pour Albert Camus, c'est bien sûr autobiographique, cette mer sourde, analphabète, qui ne l'entendait pas au sens propre du terme, qui ne réagissait pas à ses demandes affectives, cette mer sourde a créé un enfant qui a souffert d'une idiotie affective. Il est sot, en effet, il s'en est dégagé, on va peut-être le... en parler ou pas, je ne sais pas. En tout cas, il a réussi quelque chose d'essentiel, c'est de pouvoir se dégager de cette idiotie affective que sa mère lui a transmise du fait de son handicap, du fait de sa détresse. Il disait « Je voudrais accéder à la vérité de ta nuit intérieure ». Bon, pas si facile, mais il a quand même réussi à la déplacer suffisamment pour nous en dire des choses. Bon. Donc oui, l'interprétation aura des signifiants, pourquoi pas. Visiblement, Camus a vu qu'en écrivant « Meursault », c'était beaucoup trop signifiant et que ça perdait de son intérêt, c'est-à-dire que ça devenait significatif, c'est-à-dire que ça devenait un appel qui fixait la psyché, ça veut dire que ça devenait un fétiche, ça veut dire que ça perdait en affect et en émotion. Et oui, parmi les alexithymiques qui sont pauvres de langage, de sémantique, de tout ce que vous voulez, dans les classes populaires en particulier, le taux d'alexithymie est important. Il est lié évidemment à l'éducation et à la culture. Mais Dieu merci, moi qui ai un arrondissement, qui est le 5e et 6e arrondissement dont je dois m'occuper, c'est le secteur de mon service, je vois des alexithymiques partout, qui sont des grands intellectuels, à ce point intellectuels qu'ils ont versé de l'autre côté et que les mots qu'ils emploient sont dénaturés, ils ont perdu leur vivance émotionnelle, ils ne sont plus ancrés dans le corps, ils sont des signifiants étranges, qui voyagent et qui n'ont plus de chair. C'est-à-dire, on est chez les Verdurins, chez Proust, hein, c'est-à-dire un langage qui ne veut plus rien dire, qui a perdu de son intensité parce qu'il a été délié avec le corps. Voilà les deux éléments qui me venaient à réfléchir en introduction. Et puis bon, alors Gisèle et l'équipe d'InfoPsy m'a demandé de venir. Bon, je pense que c'est lié au fait que j'ai commencé en m'occupant des troubles dépressifs, et en particulier de la mélancolie, et il y a un noyau alexithymique dans la mélancolie. Ensuite, j'ai fait une HDR, comme on dit, sur l'alexithymie, dans son approche tant psychanalytique, on va la développer, que neuroscientifique. On a écrit quelques bouquins, il y a une équipe qui... On a écrit Le silence des émotions, on a écrit Psychopathologie de l'alexithymie, et puis on a écrit autre chose. Enfin, on a beaucoup tourné autour de cette question quand on était jeune, et on est assez content que ça revienne dans l'actualité aujourd'hui. Bon, première chose, parlons clinique, parce que ça c'est essentiel. La dimension. Alors, qu'est-ce que c'est que l'alexithymie ? Pour aller vite. Hein. L'alexithymie, c'est Nemia et Sifneos, qui sont deux Américains, que j'ai eu l'honneur de rencontrer, avec qui on a pu échanger. Il y a très longtemps, Nemia et Sifneos sortent le concept d'alexithymie. Alexithymie, ben, tout dépend, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec Alice, hein, tout dépend comment vous entendez les choses, quoi. Alors alexithymie, eux, c'était des neurosciences pures et dures, et, c'est-à-dire bien avant Damasio, bien avant que Damasio ne comprenne et ne nous dise que Descartes avait tort, que Spinoza avait raison. Et j'espère que Damasio va nous dire que Nietzsche a encore plus raison. Nietzsche qui disait que je ne raisonne bien, raisonne RAI, que si je raisonne, c'est-à-dire si je suis en interaction physiologique rythmique avec l'autre. Donc Nemia et Sifneos, ils ont sorti le concept d'alexithymie au sortir de la guerre, hein, au sortir du nazisme, au sortir de la Shoah. Ils ont même évalué un certain nombre rescapés de la Shoah, et ils ont trouvé cette chose effarante que ceux qui avaient réprimé leurs émotions, qui étaient alexithymiques, avaient survécu, probablement du fait de ce mécanisme de défense. En tout cas, au départ, pour eux, l'alexithymie, c'était aprivatif, absence de possible lecture et donc expression de ses émois, de ses émotions, et absence aussi de lecture des émotions des autres. Évidemment, ça va être toujours en lien avec l'autre. On n'existe pas tout seul, c'est l'autre qui me fait penser, qui me fait rêver, qui me fait frissonner, qui me donne des chaleurs, qui m'émeut. Enfin, c'est pas tout seul, ou alors c'est un auto-érotisme qui tourne à vide. Donc pour eux, c'était aprivatif. Et ils avaient fait un certain nombre d'expériences neurologiques très fortes, où ils avaient montré en gros que s'il y avait un défaut ou un arrêt de transmission des informations du système mésolimbique, le système mésolimbique étant celui qui permet, c'est un centre qui permet d'intégrer en termes émotionnels l'expérience que vous vivez, s'il y a un défaut de transmission entre le système mésolimbique et le néocortex, le centre qui permet via la cognition d'accéder à une représentation et une symbolisation, et avec le rôle de l'amygdale, c'est-à-dire la mémoire, la trace mnésique de l'expérience, s'il y avait un défaut de transmission entre le mésolimbique et le néocortex avec l'amygdale qui n'impactait pas la perception par la mémoire qui permettait de choisir ce qu'on percevait, eh bien, on était alexithymique. Ils étaient partis là-dessus. Sauf que c'est un modèle animal et que chez l'homme, ça n'existe pas, cette absence d'émotion. C'est pas vrai. Enfin, j'ai cru entendre tout à l'heure que dans L'étranger, il n'y avait pas d'émotion. C'est le livre le plus émouvant que je connaisse. Il transmet l'émotion d'une certaine manière. On va peut-être l'évoquer. Mais cette façon qu'a le sujet de ne pas pouvoir exprimer ce qu'il ressent, ce qu'il éprouve, il le projette à l'intérieur de vous, et si vous acceptez ce transfert, ce vide projeté à l'intérieur de vous, ce vide qui vous désorganise, cette torsion, ce clivage, c'est vous qui êtes ému à sa place. Je vous rappelle que dans le roman, c'est le juge qui passe son temps, le procureur, pardon, qui passe son temps à essayer d'interpréter ce que ce malheureux Meursault a pu éprouver, lui qui n'en pouvait pas dire grand-chose, et donc il demandait à l'autre, à ce juge, c'est-à-dire au père par rapport à la mère, la possibilité d'interpréter l'absence maternelle. Bon. Donc, et puis je vous invite à voir le film avec Luchino Visconti et l'ineffable, le merveilleux Marcello Mastroianni, qui est d'une sobriété exemplaire et qui fait passer l'émotion de manière... Bon. Et puis je vous invite, si ça n'a pas été dit, évidemment à acheter la lecture de L'étranger par Albert Camus. C'est monotone, monocorde, et en même temps dans les intervalles, dans les espaces vides, dans l'absence... Il crée à l'intérieur de vous une absence qui vous désorganise plus ou moins et qui vous fait éprouver ce que lui ne peut pas, ce que lui éprouve, mais dont il ne peut pas témoigner. Donc, alexithymie, c'est soit aprivatif, soit, et c'est comme ça que moi je veux le prendre, et ça se discute, dans une approche psychanalytique, avec l'étymologie, il faut toujours en revenir au grec, c'est-à-dire Alex, c'est-à-dire Alexandre, c'est-à-dire protecteur, c'est-à-dire que ne pas pouvoir ressentir ses émotions et pouvoir les exprimer, ne pas pouvoir percevoir les émotions des autres et pour pouvoir les accorder avec les siennes, peut être un élément protecteur contre ces émotions indicibles, contre ces terreurs sans nom, comme contre ces angoisses agoniques. Vous choisissez les termes que vous voulez. Donc, Alex, protecteur. C'est-à-dire, comme le disait mon maître Philippe Jamais, il s'agit, ni plus ni moins, que du contre-investissement de la perception émotionnelle qui nous arrive, de notre monde interne, un monde interne oedipien mais aussi archaïque et plein de fantasmes claniens, un contre-investissement de ce monde interne, c'est-à-dire un évitement de penser, parce qu'on a l'anticipation que si on commence à penser, ça va imploser. Donc on évite de penser son émotion, pour éviter d'imploser parce qu'on a peur de son monde interne. Et comme le disait Philippe Jamais, il y a un contre-investissement de ce monde interne dont on pense qu'on ne saurait pas le contenir, le métaboliser, l'élaborer, contre-investissement sur le percept de la réalité externe. C'est le troisième élément de l'alexithymie. Ces gens-là n'ont pas l'air de percevoir leurs émotions, de percevoir les émotions des autres, et ils sont dans ce que l'école psychosomatique appelait une pensée opératoire, technique, pragmatique. Ils sont minutieux, rigoureux dans la maîtrise, si ce n'est dans l'emprise, de tout la réalité externe, mais alors sur la réalité interne, ils sont tout à fait à côté de la plaque. Comme disait je ne sais plus qui, ils sont idiots affectivement et terriblement intelligents cognitivement. Et dans les deux dimensions, ils sont aussi implacables. Aussi implacables dans leur idiotie affective. Ce n'est pas un jugement, hein, c'est une détresse contre laquelle ils luttent. Qu'ils sont intelligents, efficients dans tout ce qui est réalité externe. Donc moi, je veux prendre l'alexithymie au sens où l'avait décrit Pierre Marty et de Musan, l'école psychosomatique de Paris, c'est-à-dire comme un contre-investissement défensif d'une réalité interne qui nous assaille et contre laquelle on pense qu'il vaut mieux éviter de se laisser brûler par pour investir la réalité externe. C'est très simple, quand Meursault sort de l'asile où il a placé sa mère et qu'il n'a pas été voir pendant des années, il souffre terriblement du soleil brûlant qui lui prend la tête. Et quand il arrive sur la plage, il y a le même soleil. Et il dit au juge, quand il lui dit « Mais pourquoi vous avez tiré ?» Et pas simplement une fois, mais quatre fois. Il dit « C'est à cause du soleil » et tout le monde se marre. Il est à côté de la plaque. Il n'est pas du tout à côté de la plaque si on considère qu'il fait une association. Il le dit après, c'est le même soleil qu'il y avait lorsque j'ai été à l'asile chercher ma mère pour assister à l'enterrement de ma mère. C'est le même soleil, c'est-à-dire qu'il fait une association par contiguïté. Il a la tête qui brûle de tout un tas de culpabilités, voire de fantasmes archaïques incestueux vis-à-vis de sa mère. Il ne peut pas, il ne veut pas les penser. Il contre-investit le percept dès le début. Hein, il sort de l'asile en courant alors qu'il fait très chaud. Il rattrape le bus, il mange, il va coucher avec Anna Karina. C'est-à-dire qu'il est dans une recherche de sensations externes pour éviter de percevoir ces sensations internes brûlantes. Il dit de sa mère qu'elle avait le regard brûlant. Bon, très bien. Donc, je prends ça comme un contre-investissement de la réalité externe pour se dégager d'une réalité interne insupportable. Bon, pourquoi je le prends ? Parce que, une fois qu'on a dit ça, revenons à la clinique. La clinique de l'alexithymie, elle est transnosographique. Ça va du champ de la psychose, que ce soit Asperger et autisme, où la question de la relation émotionnelle et de la relation au corps est quand même assez particulière, du champ de la psychose blanche, chère à Evelyne Questimbert, où le froid glaciaire de ces patients vous fait froid dans le dos, justement, et c'est vous qui ressentez ce qu'ils ne peuvent pas ressentir, et c'est à vous de le restituer ou pas. Donc, de ce champ-là, jusqu'au champ du, ça a été dit, du stress post-traumatique, on va peut-être évoquer la question de l'EMDR, justement, en passant au milieu par ce qui est le pain blanc du service, c'est-à-dire toutes les conduites addictives, toutes les toxicomanies, chères à Gérard Chadilly, toutes les anorexies, les boulimies. Bon. Et puis au milieu, vous avez les troubles dépressifs sévères, et en particulier la mélancolie, avec la crypte mélancolique, qui est la forme la plus intense de répression émotionnelle, puisque non seulement elle vous réprime l'émotion, mais elle vous réprime même le temps, le sentiment d'immortalité alors qu'on est mort, et elle vous réprime même le corps viscéral, puisque dans le cotard, il y a une négation d'organes. Donc en termes de répression, chacun fait comme il peut, et avec une plus ou moins grande intensité. On a fait des études innombrables sur les conduites addictives. On a montré près de 80% de dimensions alexithymiques. Et on a essayé de travailler à savoir si cette dimension alexithymique, donc je répète qu'elle est un contre-investissement de la réalité interne par la recherche de sensations dans la réalité externe, on a essayé de savoir si cette dimension-là, de la prendre en compte, en considération comme ça, de la mettre au centre, est-ce que ça avait un intérêt dans le traitement ? Alors je passe directement au traitement et puis je reviendrai à la psychopatho parce que je ne veux pas l'oublier. Ça veut dire que dans le service, on a depuis assez longtemps laissé tomber le logos, on a depuis assez longtemps laissé tomber le symbolisme et on a investi dans les médiations corporelles. Massage, relaxation, PAC, socio-esthétique, psychomotricité, atelier sportif, enfin tout un tas de choses qui font qu'on va revenir au corps là où quelque chose a été barré chez des enfants et des adolescents, pour espérer remonter jusqu'à la pensée. Bon. De la même manière qu'on a assez vite renoncé à tous les psychotropes à visée purement anesthésique, les benzodiazépines, ne sont ni anxiolytiques ni hypnotiques. Ça a été une publicité de nous vendre qu'ils avaient une intentionnalité là, hypnotique ou anxiolytique. Ce sont des anesthésiques légers, c'est-à-dire des choses qui vous permettent de tenir par rapport à une tension émotionnelle. Très bien. Donc on a été très prudent, surtout avec les conséquences dramatiques de ces produits psychotropes chez les enfants et les adolescents. Même chose, si vous voulez, sur la crise des opiacés. La surprescription des opiacés devant la moindre douleur est une tentative aussi, dans un mal contemporain, d'arrêter immédiatement ce qui serait une douleur physique, mais liée à des dimensions psychologiques, de ne pas penser, avec les conséquences dramatiques des intoxications aux opiacés et des morts. Bon, voilà, la mort heureuse, hein, comme disaient les toxicos, la mort heureuse dans le nirvana de la toxicomanie. La psychanalyse, elle dit, vous avez un monde interne, il est en train de vous solliciter à un moment clé, pour tout un tas de raisons que vous ignorez, il pousse, ça pulse, et ça vient du corps. Est-ce que vous voulez vous en occuper? Est-ce que vous voulez l'affronter? Est-ce que vous voulez traverser cette douleur en étant accompagné par quelqu'un? Ou est-ce que vous voulez des déplacements qui sont très importants, qu'on peut comprendre, des déplacements sous forme de remédiation cognitive, sous forme de psychoéducation, sous forme de traitement psychotrope? Très bien, tout le monde n'a pas la possibilité à un moment, pour tout un tas de raisons, de consacrer du temps, de l'argent, avec quelqu'un de suffisamment disponible pour traverser cette douleur, comme disait Nietzsche, la traverser, se retourner et la voir de face une fois qu'on l'a traversée. Bon. Alors de quoi s'agit-il? De quelle douleur s'agit-il? Eh bien, d'après l'approche psychanalytique, et donc Anzieux, le moi-peau, un livre central, Pierre Fédida, l'absence, un livre central, André Green, la folie privée, un livre central sur la question de l'affect et des émotions. C'est quoi là, l'idée? L'idée, c'est simple, c'est que cette répression émotionnelle, en particulier à l'adolescence ou à l'âge adulte jeune, cette impossibilité d'entrer en contact avec son monde intérieur et de l'affronter ou de s'y confronter, il semble qu'elle émane de ce qui a pu se jouer dans l'enfance. Et ce qui a pu se jouer dans l'enfance, c'est dans les interrelations précoces, ça vous retrouvez ça en psychothérapie, dans les interrelations précoces, un certain nombre de choses ont été défectueuses, et en particulier des choses qui vont permettre justement cette montée que Wilfried Bion appelait de ses voeux, à savoir que le corps est le siège des émotions qui s'emmerdent de toutes les pensées. C'est au niveau du corps que quelque chose s'est mal engagé, et ce corps n'a pas pu contenir ses émotions, ses affects, et ensuite la transformation de ses émotions en pensées a été difficile. Qu'est-ce qui a été problématique? Eh bien, on le voit dans les conduites addictives en particulier, c'est que l'accordage rythmique entre l'objet primaire, la mère monde, c'est la mère de Meursault, la mère monde et l'enfant, n'a pas pu se faire du fait d'un certain nombre de raisons qui appartiennent à la mère, de détresse, d'impossibilité de holding, de hodling, d'objet de pressenting, enfin de s'occuper de son nourrisson, de s'en occuper, non pas avec le logos, à ce moment-là, la question ne se pose pas, de s'en occuper transcorporellement, comme disait André Green, la relation transcorporelle narcissique. Comment le contenant, la mère, va s'occuper du contenu, l'enfant? Comment ce contenant va permettre de transmettre un certain nombre d'affects, un certain nombre d'émotions? Comment le contenu va pouvoir les percevoir? Comment l'accordage va se faire? Et là, en effet, tous les philosophes sont à convoquer, que ce soit Bergson, que ce soit Merleau-Ponty, les grands philosophes français, c'est-à-dire que cet accordage rythmique entre la mère et l'enfant, évidemment, n'est pas un accordage qui se fait à 100%. Cette mère doit être seulement suffisamment bonne, elle ne doit pas être totalement parfaite. Si elle est totalement parfaite, on est dans une fusion symbiotique, et il y a toute une problématique de dédifférenciation qui va se faire et qui existe chez Meursault. Il a besoin de se dédifférencier avec ce soleil qui lui brûle les yeux et lui brûle la tête. Bon. Cette mère est suffisamment bonne, c'est-à-dire que par moment, il y a des éclipses. C'est-à-dire par moment, elle n'est pas bonne, par moment, elle n'est pas là, par moment, elle n'est pas disponible, par moment, elle est préoccupée, préoccupée, son esprit est préoccupé ailleurs. Bon. Et c'est dans l'intervalle de ces moments que les choses se jouent pour ce qui est de l'ancrage corporel des émotions. Je m'explique. ce bébé qui va chercher les besoins alimentaires, mais aussi les besoins affectifs de ce qu'il perçoit plus ou moins de façon trouble, ce soleil plein d'ombre qu'est la mère, ce bébé donc qui va vers cette mère reçoit une réponse plus ou moins adaptée. Si cette mère n'y répond pas, il y a un gap, comme disait Winnicott, il y a un trou. Il y a un trou entre la continuité et la discontinuité. Il y a un trou entre la sensation de plaisir d'être là en relation avec la mère et le déplaisir qu'elle soit absente. Il y a un trou entre le sentiment de plénitude du sein qui allait de ce gosse et qui le remplit de ce lait chaud et le sentiment de vide qui est après que cette mère s'absente. Dans cet intervalle-là, c'est ce que Bergson et Merleau-Ponty ont repris, il y a la nécessité pour le sujet qui est dans le trou, comme s'il était, il avait lâché un trapèze, il était dans le vide en suspens et il attend dès que la mère revienne, c'est-à-dire qu'un autre trapèze vienne. Il est en suspens, il est dans un besoin impérieux, dans cette discontinuité-continuité, des plaisirs-plaisirs, de trouver un mouvement propre, auto-érotique, qui va être à l'origine du sens. Voilà, voilà l'idée centrale. C'est, il est affecté par, il est touché par la mère, ou il n'est pas affecté, il n'est pas touché par la mère. Cette mère est présente et elle habite son psychisme et elle il a une capacité de rêverie qui lui permet de penser son enfant, où cette mère est absente et elle transmet à cet enfant un sentiment d'absence en écho avec l'absence de cette propre mère. Et il a un sentiment d'absence de vide, dont il, l'absence, Felida, dont il doit éprouver, endurer l'intensité et en sortir quelque chose, c'est-à-dire dégager du sens. Le sens n'émerge que du fait de la difficulté à ce que l'émotion a été soit trop brûlante, soit trop absente. C'est ça l'idée fondamentale de Bergson, de Merleau-Ponty, de Deleuze, et qui est reprise par la phénoménologie et l'école de psychosomatique. Bon. Il y a quelque chose, donc, dans la relation transcorporelle mère-enfant, dans l'accordage affectif, rythmique, pulsionnel, entre la mère et l'enfant, qui n'est pas passé. C'est là que la transmission a fait défaut. Moi, j'ai toujours l'habitude, en effet, de faire des références littéraires parce qu'elles disent les choses beaucoup plus poétiquement, c'est-à-dire émotionnellement touchant, l'accordage entre le son et le sens de la poésie. Beaucoup plus poétiquement, je suis pour la poésie en psychiatrie plutôt que laborieusement ce que j'essaie de tenter de faire en jouant avec des théories. Henri Michaud avait une mère qui, pour tout un tas de raisons de détresse, de dépression, il appelait la ralentie, ne le touchait pas, il rêvait d'elle, et quand il pensait à elle, il voyait une statue dans le château de Versailles qui n'avait ni tête ni bras, et qui était blanche et lisse. Et il disait que quand elle le touchait, il avait le sentiment de ressentir sur sa peau des nappes de silence et d'hostilité. C'est la relation transcorporelle de main d'aveugle chez cette mère, qui a perdu la sensibilité tactile sensuelle et qui ne touche pas, qui n'affecte pas son enfant. Évidemment, s'il y avait une mère perverse comme celle de Georges Bataille, dans l'œil, qui effracte l'enfant par sa sexualité, ça aurait aussi un effet inverse. Il faut être suffisamment affectant, le fameux toucher touchant de Merleau-Ponty. Il y a Paul Éluard qui dit ça merveilleusement dans La relation amoureuse à l'adolescence. Et il décrit une relation amoureuse, il dit « Et ton corps étant sur mon corps, la nappe de son silence clair. » Alors, il joue avec les sons et le sens. Hein. « Et ton corps étant sur mon corps. » Il y a une relation corps-corps, mais avec une indifférenciation. « Et ton corps étant sur mon corps, comme si mon corps est mon corps. » Enfin, il y a une confusion, comme dans la relation amoureuse, pour aboutir enfin à une transmission émotionnelle extatique. Et quand ce n'est pas le cas, on transmet un silence, un vide. Bon. Et c'est le début de la fin, probablement. Bref, nous, chez les conduites addictives, chez les borderline avec les conduites addictives, dans les psychothérapies, vous avez toujours, c'est pour ça que la dimension de prise en charge familiale est importante, toujours une difficulté, une dépression maternelle. Près de 30% de dépression majeure chez les mères qui ont des enfants qui seront anorexiques, par exemple. Dépression majeure, c'est-à-dire que les autres dépressions aussi existent. Des antécédents de TCA quasiment dans 100% des cas, c'est-à-dire d'un corps maigre, asséché, froid, glacé. Il n'y a pas de critique dans tout ça, simplement une mère anorexique dans une interaction avec ses enfants, c'est une catastrophe. Si vous voyez des vidéos, comme les vidéos de Gisèle avec les mères borderline, vous voyez que l'interaction affective, rythmique, pulsionnelle, fait défaut parce qu'elle ne peut pas être suffisamment bonne transcorporelle. Comme si la mère n'avait pas le goût pour cet enfant, non pas qu'elle ne l'aime pas, mais qu'elle réactive des histoires anciennes avec sa propre mère qui font qu'un certain dégoût revient et qu'elle contre-investit ce dégoût pour protéger son enfant, mais qu'elle ne le touche pas pour ne pas l'effracter et que ça crée des silences, des nappes de silence et d'excitation. Des nappes de silence et d'hostilité, c'est-à-dire de ne pas être touché, ça excite considérablement. C'est comme si vous êtes amoureux de quelqu'un, que vous brûlez de cette personne et qu'elle se dérobe à votre regard et qu'elle s'en va, vous êtes dans un état d'excitation insupportable. Il faut à ce moment-là que les auto-érotismes reprennent pour calmer cette excitation, ou il faut que cette excitation, vous puissiez la lier à un autre objet, la déplacer. C'est ce que visiblement a fait Albert Camus avec les livres et le sport. N'oublions pas le sport chez Camus, qui lui permettait que cette excitation ne reste pas libre et ne rebrousse pas viscéralement dans son corps avec les conséquences psychosomatiques qu'ont décrit les psychosomaticiens. Alors, venons-en au traitement. Parlons de l'EMDR. L'EMDR reprend dans l'état de stress post-traumatique la question centrale. Qu'est-ce qu'il faut faire avec la reviviscence traumatique dans les cauchemars ou lorsqu'elle vous surprend comme ça, sans crier gare, la reviviscence de l'expression traumatique, qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Est-ce qu'il faut l'allonger et la travailler? Oui, certains analystes ont essayé de le faire. Et évidemment, ils ont été interprétatifs, beaucoup trop effractants, et ils n'ont fait que réactiver le trauma, en particulier les abus sexuels chez l'enfant et l'adolescent. Le sujet n'avait pas la capacité psychique, les ressources internes pour contrôler la réactivation du trauma lié au travail psychothérapeutique. Donc, ce n'est pas forcément possible toujours, tout le temps, à tout moment. Et le MDR, dans l'état de stress post-traumatique, a cet avantage pour moi. On est en train de demander à des collègues de le développer dans le service. Le MDR a cet avantage essentiel de jouer sur les mouvements oculaires qui permettent un état de semi-conscience qui permet d'associer. Celui qui fait le MDR, bon, à part le fait qu'il bouge les doigts devant vous, il ne fait pas grand-chose d'autre que le psychanalyste lorsqu'il vous dit « Allez, commencez à parler, l'important c'est que vous démarriez, commencez à parler, continuez à parler. » Et là, il vous dit « Continuez à associer, continuez à associer. » Et qu'est-ce qu'il recherche? Il recherche la perception sensorielle négative qui a été la vôtre au moment de ce trauma, et il exerce une espèce de renforcement positif pour que vous puissiez transformer cette expérience sensorielle négative en une expérience positive qui vous permet de vous maintenir dans une relation positive plutôt que toujours abyssale dans le trou traumatique sans fin. Bon. Ce n'est pas très différent de ce que fait le psychanalyste, sauf que le psychanalyste le fait en pleine conscience, ce qui est beaucoup plus compliqué, parce qu'on ne bénéficie pas de la petite anesthésie de la semi-conscience de l'hypnose dans le MDR, ce qui est beaucoup plus compliqué, mais si l'on en croit Freud, beaucoup plus performatif dans le sens où il n'y aura pas de transformation durable de la façon que vous avez de gérer le reflux de votre mémoire traumatique si vous ne le faites pas en pleine conscience. Si vous le faites en semi-conscience, c'est comme si vous aviez fait jouer l'assurance d'une certaine manière parce qu'il y avait un bris de glace ou un bris de voiture. Vous avez fait jouer une protection qui, comme toute anesthésie, risque de vous protéger trop. Mais de l'autre côté, d'être trop présent, trop à vif sur l'expérience traumatique entraîne des risques d'implosion, bien sûr. Tout dépend qui vous rencontrez, à quel rythme vous le faites et dans quel cadre vous le faites. Bon. Donc, les médiations corporelles. Bon, qu'est-ce qu'on fait dans le service? On a des patientes qui, pour une raison complexe, des patients borderline, qui ne semblent pas investir l'adolescence ou d'une manière particulière, soit en répression totale, et alors là, elles y vont franco, puisqu'elles répriment totalement le corps. Ce corps adolescent, dont les métamorphoses pubertaires entraînent des chaleurs, des frissons, des émois sensuels, sexuels, ce qui n'était pas le cas dans l'enfance, protégé par l'amnésie de la sexualité infantile. Là, c'est à ciel ouvert, les émois sont là, ça les déborde, les jeans sont déchirés, enfin bon, ça déborde vraiment, ça pulse, C'est le corps qui pulse, le corps qui pulse ses émotions, dirigées plus ou moins vers un objet qui les accepte. Bon, ils ne savent pas quoi faire avec ça. Donc, soit ils les répriment massivement, l'anorexie, alors là, paf, retour à un état prépubère, y compris physiologique. Plus aucun éprouvé, sensoriel, sensuel, la solution radicale, impeccable. Et ça, pour trouver mieux que comme solution, ça va être difficile, puisqu'il va falloir déverrouiller le système pour leur permettre de reprendre du poids, de revoir un corps de femme, de rééprouver des émois, des chaleurs, des frissons qu'elles voulaient méconnaître, et d'essayer de les contenir et de les accorder avec des objets. Bon. Ou alors, vous avez de l'autre côté, les toxicos de Gérard, c'est-à-dire la recherche de sensations permanentes. Le crack, l'héroïne, les jeux vidéo, enfin tout ce que vous voulez, tout ce qui peut être une sensation extérieure qui est la même intensité que la sensation intérieure, c'est-à-dire le soleil brûlant par rapport au soleil brûlant du regard maternel. L'un pouvant parexciter l'autre, mais avec le risque, bien sûr, que ce déplacement sur la réalité externe ne soit que sans cesse à répéter, puisqu'elle est totalement et toujours insatisfaisante, alors que peut-être l'élaboration interne permettrait de la déplacer et de l'intégrer. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces patients et ces patientes? On privilégie les médiations corporelles. C'est-à-dire que ces soignants, ces médiateurs corporels, essayent de... Bon, on touche. Et il y a du toucher touchant avec les patients les plus psychotiques, parce qu'ils ne peuvent pas ressentir ce que vous leur faites s'ils ne vous le font pas à vous-même. Donc, il y a toutes les gammes entre le toucher touchant avec les patients en psychose blanche, et les PAC avec les psychoses, et la simple psychomotricité, ou même le psychodrame psychanalytique, qui est une médiation corporelle, c'est-à-dire un jeu de rôle avec des mouvements, plutôt qu'un espace langagier d'échange théorique. Bon. Donc, on essaye de revisiter, au début, au commencement, ce clivage corps-psyché, cette dissociation corps-psyché, cette absence d'ancrage corps-psyché, vous avez toutes les gammes possibles, mais ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas une alexithymie, une absence d'émotion, qu'il n'y a pas de coupure entre le mésolimbique et le néocortex, que l'amygdale continue à envoyer sa mémoire traumatique, que simplement, dès que ça émerge, le sujet l'évite en reprenant sa recherche de sensations ou sa répression, et que c'est à nous de gagner du terrain progressivement dans cet accordage transcorporel. Vous avez des socio-esthéticiennes qui s'occupent des anorexiques d'une manière formidable. Elle vous dirait les choses beaucoup mieux que moi. Ces patientes anorexiques leur transmettent le froid, la mort. Moi qui ai en supervision ces médiatrices corporelles, elles me disent que ce n'est pas possible de continuer à masser, à relaxer, à coiffer, à maquiller ces jeunes filles. Elles me transmettent le froid, la mort, l'absence, le vide. Qu'est-ce que je fais avec ça? Donc, moi, je travaille dans la supervision avec elles, mais voilà ce qui est transmis. Et en échange, vous avez ces femmes formidables qui transmettent le féminin, c'est-à-dire la possibilité de la passivité, de l'accueil, de la générosité, du débordement consenti ou assenti, enfin tout un tas de choses qu'elles savent faire, mais avec leurs mains, avec leurs yeux, avec leur présence incarnée. Voilà ce qu'on fait dans le service pour essayer de déverrouiller un système dont on pense, dont on perçoit quotidiennement qu'il a été verrouillé dès le commencement et qu'il n'y a rien de définitif, que c'est possiblement ouvert, avec des risques. Il y a des massages en psychomotricité, il y a des massages avec les PAC en psychomotricité qui ont abouti à des fractures. Vous touchez la patiente, elle se rétracte à un point tel, avec l'ostéoporose derrière, paf, elle casse. Vous avez des PAC qui ont abouti à un gosse qui littéralement sort de ce contenant amniotique maternel et qui s'enfuit, parce qu'il ne peut pas s'enfuir. Bon. Donc ça ne marche pas à tous les coups, c'est à jauger, c'est à juger. Vous avez des psychodrames où des simples mouvements de corps qui entourent l'enfant pour lui témoigner d'une présence qui le contienne désorganisent l'enfant et l'enfant sort du psychodrame. Donc on touche matériellement la difficulté à revenir en arrière au commencement pour refaire un travail de contenance, d'accordage, de liaison, et puis on ouvre le système en espérant que la vie va pouvoir s'y engouffrer parce que la technique alexithymique, telle qu'elle s'est développée, a pour conséquence, si on la laisse s'installer, de s'installer dans la chronicité, dans un modèle de relation aux autres opératoire, technique, pragmatique, sans émotion, sans partage, avec pour conséquence une souffrance Un mal de sa sympathie, disait Camus. Il avait le mal de sa sympathie. Il n'arrivait pas à être sympathique avec lui-même. Bon. Une souffrance qui peut aboutir, si on en croit l'école psychosomatique aussi, à ce qu'à un certain moment, le soma délire, que la psyché ne puisse pas prendre en compte un certain nombre d'excitations, en avoir une représentation et pouvoir l'exprimer, laisse le soma livré à ce rebroussement viscéral avec des décompensations psychosomatiques. C'est en tout cas l'inquiétude qu'avait l'école de Musan et de Marty. Ça me permet d'ailleurs de revenir à la mémoire de Marty. Si vous avez la chance de voir une cassette vidéo avec Marty, donc avec un patient alexithymique, c'est-à-dire un patient qui, comme le Meursault, ne sait, qui est à côté de sa vie, quoi, qui est à côté de ses pompes, qui est à côté de lui-même, qui n'est pas seul, qui est dans l'isolement, il n'est même pas en contact avec lui-même. Et vous essayez de le solliciter, et pas moyen. Et Marty avait trouvé quelque chose que j'ai toujours trouvé phénoménal, il faut le voir, ce psychanalyste-là, ce n'était pas le psychanalyste silencieux qui attendait que l'autre émerge sa demande pour pouvoir avancer. Marty, littéralement, s'hystérisait. Il faisait la grande folle. Il tournait autour du patient, il le touchait, il le sollicitait, jusqu'à temps qu'il puisse dégager un noyau, qu'il puisse dénouer un nœud d'étranglement. Et quand il y parvenait, ça y est, il avait une voie de frayage à partir de laquelle il pouvait... Quand vous voyez André Green en interaction avec les patients, comme on l'a vu à la Cité universitaire, c'est pas le silence des émotions, André Green. André Green, c'est la pulsionnalité, c'est Nietzsche. Ça résonne. Donc, il répondait à la densité pulsionnelle du symptôme de répression par une densité pulsionnelle de présence, d'incarnation présente, qui essayait de faire pendant à ce retrait, à ce repli, à ce retranchement qui n'est fondamentalement qu'une défense. Alors on peut se tromper, peut-être que ce n'est pas défensif, peut-être qu'il y a vraiment une fibre là qui est coupée entre le mésolimbique et le néocortex. Si c'est le cas, peut-être pas la peine de continuer, hein, parce que vous n'avez pas arrivé à remédier à ça. Rien ne vous empêche de partir dans une illusion mobilisatrice, qui est que d'abord on ne sait pas, et qu'on va parier sur le fait que c'est plutôt un contre-investissement défensif, plutôt qu'une cessation, et qu'on va voir avec le temps relationnel qu'on accorde à ce patient, si quelque chose peut émerger progressivement, sans aller plus vite que le rythme qu'il impose, sans aller plus haut que la musique, parce qu'il y a des risques de débordement, mais en ouvrant le champ des possibles pour qu'il puisse rencontrer autre chose qu'une mort heureuse. Je vous remercie de votre attention.